et bienvenue à vous dans cet épisode du podcast Libre et Photographe, l'émission qui vous aide à enclencher sereinement votre reconversion professionnelle dans la photographie. Je suis Régis Modcardini, photographe, coach pour photographe, et j'aide mes clients dans la professionnalisation de leur passion photo pour accomplir de grandes choses dans leur vie. Je publie dans ce podcast un nouvel épisode toutes les deux semaines avec deux formats. Le premier des deux formats, ce sont les interviews, où vous découvrez le parcours et l'expérience d'un ou d'une photographe qui fait de son expertise photo un moyen de gagner de l'argent, que ce soit dans le cadre de reconversion par exemple, ou juste pour, dans un premier temps, se payer son matos, arrondir ses fins de mois. Le deuxième format, quant à lui, j'appelle la leçon. Je vous donne mes conseils concrets de photographe pro sur un sujet bien précis, donc des conseils d'entrepreneur photographe que je suis depuis maintenant presque 10 ans, et c'est exactement celui que vous allez avoir aujourd'hui. Cet épisode est consacré à une nouvelle leçon, et c'est déjà la 12e. Alors évidemment, je vous cache pas, j'aimerais qu'il y en ait des centaines pour que ça puisse vous aider encore plus. J'y travaille, je suis toujours en train d'optimiser mon organisation pour vous livrer bien toujours plus de conseils, comme avec ces leçons et comme avec cette leçon aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de ma façon de gérer le budget de mon entreprise photo. Ça va être, j'espère, pour vous très intéressant, aussi très formateur, et qu'à la fin de cet épisode, vous puissiez en retirer tout plein de conseils que vous pourrez utiliser concrètement dans votre entreprise photo naissante ou déjà bien installée. J'insiste sur le mot « ma façon », hein, « ma façon à moi ». Ici, il n'y a pas de cours d'analyse financière bien plombante ou de leçons comptables qui le seraient tout autant. Peut-être que d'ailleurs, il y a peut-être des profs qui sont très très bons et qui peuvent faire des cours théoriques en comptabilité très passionnants, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Bah, déjà parce que c'est pas mon métier, et puis surtout parce que en fait, c'est mon expérience de terrain que j'ai envie de vous partager, bien de mes 9 ans à la tête de mon entreprise photo, et que cette expérience-là, elle est tout aussi utile, elle n'a pas moins de valeur qu'un universitaire qui vous ferait un cours très théorique. Donc des erreurs, moi j'en ai fait, des réussites aussi, des découvertes évidemment, des essais, tout ce qui fait le lot quotidien de n'importe quel entrepreneur. Mais voilà, je vais vous partager tout ça aujourd'hui, et je pense qu'en fait, avoir atteint une espèce, alors c'est pas une manière de gestion ultime, parce que j'y travaille toujours, et puis il y a probablement pas de manière de gérer son argent ultime qui aurait aucun défaut, mais celle que je vous présente là, c'est celle qui me convient très bien, et c'est ça qui est important. Vous devez vous mettre dans l'idée que vous aussi, vous devez évidemment passer par cette case-là, cette étape-là de construction de votre gestion financière de votre entreprise. Il faut pas en avoir peur, c'est un passage obligé, et ça peut être sinon passionnant, en tout cas hyper intéressant et même parfois excitant de jongler avec les chiffres. On voit la perspective pour sa boîte, pour son entreprise. On commence déjà à la voir grandir, hein, puisqu'on fait du prévisionnel, donc c'est hyper intéressant. Mais vraiment, j'insiste vraiment sur ce point-là, c'est vous devez trouver votre manière à vous, même si bien sûr il y a des impondérables, il y a des choses très qui sont communes à n'importe quelle entreprise. On va pas non plus réinventer l'eau chaude, hein. Il y a déjà des choses qui ont été faites et bien faites, on va s'en servir. Vous allez vous en servir, mais à partir de ça, c'est à vous de faire votre propre sauce, et c'est ça qui est hyper, qui est le plus efficace finalement. Un petit disclaimer, si parmi vous il y a des comptables de métier, des puristes du budget, vous allez peut-être grincer des dents, parce que voilà, à nouveau, je livre dans cet épisode avec mes mots ce qui fonctionne bien pour moi, et voilà, l'idée c'est que vous n'aurez plus qu'à prendre ce qui vous semble être également bon pour vous. Donc le système que j'ai mis en place, il est basé en 6 grandes catégories de dépenses. Je vous le rappelle encore, hein, je prends toutes les précautions nécessaires, mais ces catégories ne sont pas des catégories comptables au sens strict du terme. Ce sont mes catégories à moi qui me parlent, qui ont du sens dans ma vie d'entreprise, et surtout elles m'aident à y voir plus clair, à gérer au quotidien et voir rapidement si mon entreprise est rentable ou pas. Donc vous l'avez compris, c'est un savant mélange de méthodes empiriques et puis aussi d'aspects plus théoriques, et je ne peux que vous conseiller de vous construire votre propre système à vous. Inspirez-vous de ce que je vais vous présenter ici, peut-être aller voir, et même c'est pas peut-être, c'est aller voir aussi des choses qui se font ailleurs, lisez des bouquins, peut-être plus théorique, plus installé, conforme aux bons usages, et je ne peux à nouveau que vous encourager à faire votre propre technique, votre propre sauce financière. Donc voici les 6 postes dont je vais vous parler, et évidemment pour chacun d'eux, j'y reviendrai en détail. Donc le premier des 6, c'est votre salaire, hein. Quand je parle de postes, ce sont des postes de dépenses ou d'investissement, hein. Donc le premier poste, c'est votre salaire. Ensuite, je vous parlerai, deuxième poste, des charges sociales. Ensuite, le troisième poste, ce sont les charges de fonctionnement. Le quatrième, vos investissements. Le cinquième, la délégation, et puis, en tout cas, votre équipe, hein, voilà, et là, vous vous dites, oulala, mais je suis encore trop jeune dans mon entreprise pour avoir une équipe, mais c'est déjà très bien, il faut déjà anticiper ça. Et puis, enfin, le dernier poste, le sixième, qui n'est pas le moins important, ce sont vos dons. Voilà, vos dons, vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. Le salaire. Premièrement, vous devez avoir conscience d'une chose, c'est que vous êtes le principal actif de votre entreprise. À ce titre-là, vous devez quand même considérer qu'à court terme, moyen terme, vous devez vous rémunérer. Parce que il n'y a aucune entreprise dans le monde qui a réussi à, comment dire, à performer et à grandir et à réussir sa grande mission d'entreprise sans que son principal actif, donc son créateur, son fondateur, ne se soit versé aucun salaire. C'est pas possible. Tout travail mérite salaire et ça a encore plus de sens quand on est entrepreneur, quand on est au début seul à la barre. Donc vous devez avoir à court terme cette ambition de vous rémunérer. Ceci étant dit, au départ, quand on commence, on n'est pas obligé de se rémunérer. Parce que on peut être parfaitement dans ce qu'on appelle un side project ou un parallèle project, c'est-à-dire qu'on a un salaire à côté, on a encore notre travail, on va dire, classique, je mets des guillemets, mais notre travail classique, donc on peut tout à fait avoir le droit et même l'envie de ne pas se verser de salaire parce que eh bien le chiffre d'affaires qu'on va générer avec son entreprise photographique, ses premiers clients, qui vont vous payer, eh bien, on va le réinvestir. Mais en tout cas, voilà, on considère qu'on ne va pas se verser un salaire, et puis on peut aussi avoir cet état d'esprit-là. Si on a de l'argent de côté, c'est tout à fait possible également. Si on a Pôle emploi, voilà, vous venez de quitter votre travail, et vous avez droit à des versements mensuels de la part de Pôle emploi, vous pouvez avoir un conjoint ou une conjointe qui peut survenir grâce à son salaire à lui ou à elle aux charges du budget familial. Donc dans ce cadre-là, on peut ne pas se verser de salaire et il n'y a aucun problème avec ça. C'est parce que l'argent qu'on va gagner, en tout cas qu'on va générer en termes de vente avec son entreprise, on va pouvoir le réinvestir directement ailleurs ou provisionner pour avoir une bonne trésorerie assez rapidement. Ensuite, voilà, vient la deuxième option, c'est qu'on a besoin d'avoir un salaire parce que c'est nécessaire, c'est vital et qu'on a envie de se verser son propre salaire grâce à son entreprise. S'il y a des petits bruits parfois, c'est parce que vous voyez pas évidemment, parce que je vous parle et je utilise beaucoup les mains, même tout seul devant mon écran, mon micro, et que parfois les gestes sont un petit peu grands et je bute sur mon micro juste à côté, évidemment. Alors voilà, donc vous voulez vous verser un salaire, et en gros la grande question c'est quel salaire ? Pour moi, c'est, alors voilà, je vous dis ça très clairement, votre salaire, ça n'est pas ce que vous allez pouvoir vous verser à la fin de votre mois d'entreprise, et c'est pas ce qui va rester sur votre compte en banque d'entreprise. Avec ce qui reste, vous voulez vous verser un salaire, c'est pas ça. Si vous fonctionnez comme ça, vous vous mettez vous en péril en tant qu'entrepreneur. Je vous répète, vous êtes le principal actif, vous êtes la principale énergie. Si vous décidez de vous payer uniquement avec ce qui reste à la fin du mois dans votre compte d'entreprise, ça va être difficile parce que il faut pas que votre salaire soit la variable d'ajustement. Si elle l'est, c'est très dangereux. Peut-être pas à court terme, mais à moyen et long terme, oui, ça l'est. Forcément parce que ça veut dire qu'il y a des mois vous pourrez pas vous payer. Et si vous ne pouvez pas vous payer et que vous avez en termes personnels, eh bien déjà des dépenses engagées, ça peut être très compliqué à gérer et très stressant. Donc, votre salaire n'est pas la variable d'ajustement. Il y a d'autres variables d'ajustement dans une entreprise, mais surtout pas votre salaire. À partir de là, vous devez tout simplement estimer le plus précisément possible, même si on n'est pas au centime près, ce dont vous avez besoin par mois, au niveau personnel, au niveau familial, d'argent, quelles sommes vous avez besoin pour couvrir vos dépenses, pour couvrir votre niveau de vie. Donc là, la vraie question à vous poser, finalement, derrière ça, c'est quel confort de vie vous voulez avoir, quel niveau de vie vous voulez avoir. Donc le curseur doit se déplacer en fonction de votre niveau de vie acceptable. Et c'est uniquement à partir de là que vous pourrez décider de vous verser tel ou tel salaire. Donc là, moi, je suis évidemment pas répondre à votre place, je peux pas vous dire qu'il vous faut 1000, 1500 euros, 2000 euros par mois ou 500. Je peux pas répondre à cette question. C'est vous seul qui pouvez y répondre. Vous seul, peut-être pas. C'est que vous avez probablement un conjoint, une conjointe. C'est aussi quelque chose qui se discute en famille, bien sûr. Donc la clé finalement, l'idée c'est pas de vous faire un cours sur comment gérer votre budget familial, mais juste vous faites un tableau Excel classique, les dépenses par mois, tout ce que la famille, tout ce que le foyer dépense comme argent tous les mois, des dépenses incompressibles comme les dépenses variables. Vous faites un tableau qui qui répertorie tout ça. Un deuxième, alors c'est pas un deuxième tableau, c'est une deuxième colonne avec toutes les rentrées d'argent. Et puis vous voyez, vous, votre salaire, à quel moment il va pouvoir intervenir pour peut-être compléter ce qu'il faut, pour aller un peu plus loin, pour avoir un niveau de vie peut-être plus intéressant pour vous, je ne sais pas, c'est encore une fois à vous de voir. Mais d'abord, partez vraiment de vos besoins individuels de foyer pour estimer votre salaire. Et quand c'est fait, eh bien voilà, je vous donne bien un résultat. Vous avez Pôle emploi, eh bien par mois, en fonction de votre revenu, du revenu de votre conjoint, de vos dépenses habituelles, eh bien vous savez que vous devez dégager, que vous devez vous verser un salaire de tant par mois, 500, 600 euros, 1000 euros par mois. Et quand vous avez décidé de votre salaire mensuel, eh bien ce salaire-là, il est incompressible, j'ai envie de vous dire, et c'est celui qui sera versé quasiment automatiquement par votre entreprise sur votre compte bancaire à vous personnel. Ça, c'était pour le premier poste, la première clé. Je l'ai mis en premier parce que c'est hyper important. Vous êtes le principal actif de votre entreprise. Sans vous, votre entreprise, elle ne fonctionne plus, en tout cas au début. Donc, vous devez vous choyer. Vous devez vraiment vous verser un salaire pour que votre métier ait du sens, pour que votre mission ait du sens. Il faut qu'elle ait du sens par l'entreprise, parce que vous allez aider des clients, vous allez, réussir à satisfaire vos clients, ça c'est génial. Mais à côté de ça, vous avez aussi une ambition personnelle, des rêves de vie, et c'est votre salaire qui va vous permettre d'atteindre ces rêves de vie personnellement. Deuxième poste, deuxième clé, les charges sociales. On les appelle aussi les cotisations sociales. Déjà, sachez deux choses, c'est obligatoire, peu importe votre niveau de chiffre d'affaires, votre niveau de revenu, peu importe votre statut, le type d'entreprise que vous avez créé ou que vous allez créer, c'est absolument obligatoire. Ça, c'est la première chose. Vous pourrez pas y couper. À moins de faire des choses illégales, mais évidemment, c'est pas du tout ce que je vous conseille. La deuxième chose, c'est que le but est très simple par rapport à ces charges sociales, c'est que vous fassiez des versements à qui ? Eh bien, aux administrations de sécurité sociale. Pour, donc là, j'ai pris des notes, hein, parce que je ne l'ai pas forcément en tête tout le temps, mais pour, premièrement, eh bien, payer votre protection sociale, ça, c'est quand même déjà un gros morceau, les allocs, les indemnités de chômage. Si vous touchez le chômage actuellement parce que vous avez quitté votre travail, si vous touchez le chômage, c'est parce que, dans votre ancien métier, en tant que salarié, vous savez, mais je vous le dis quand même, eh bien, vous cotisiez déjà. Alors, vous ne voyez pas trop parce qu'on ne regarde pas forcément les feuilles de paye tout le temps, mais votre patron cotise pour que vous puissiez vous avoir après vos indemnités de chômage. Bref, mais là, en tant qu'entrepreneur, on le voit. On le voit parce qu'en fait, ce sont des charges qui sont prélevées directement sur votre compte en banque d'entreprise professionnelle. Donc, on le voit, ça. Voilà, donc premièrement, protection sociale, ça c'est hyper important évidemment. Deuxièmement, c'est vous donner accès ensuite à des services dont vous aurez besoin tout au long de votre carrière et même votre carrière là d'entrepreneur. Je ne parle pas que de la carrière de salarié et c'est typiquement l'accès à des formations. Moi en tant qu'entrepreneur, ça fait maintenant 7 ans que j'ai démissionné, 9 ans que j'ai mon entreprise. Je suis à mon compte et c'est pas parce que je suis à mon compte que je n'ai pas droit, comme des salariés, à pouvoir accéder à la formation. Et je peux accéder à la formation parce que, eh bien, tous les mois, tous les ans, je cotise via les charges sociales. Et puis, last but not least, les fameuses pensions retraite. C'est parce que, aussi, vous cotisez avec ces charges sociales que vous allez pouvoir, à la fin de votre vie active, eh bien, toucher votre pension retraite. Vous voyez donc, ces trois choses-là, des charges sociales, des cotisations sociales, je sais que vous le savez tout ça, mais ça va mieux en le disant. Pourquoi ? Parce qu'on sait pourquoi on paye. Hein. On paye, on a des charges, donc les charges, le mot est assez négatif, mais en fait, quand on y pense, derrière, c'est génial, parce qu'il y a une vraie sécurité. Il faut se dire les choses, en France, c'est quand même plutôt pas trop mal. On est quand même bien choyé, les charges sont importantes, effectivement, mais derrière, il y a quand même un retour, j'ai presque envie de dire un retour sur investissement. Considérons presque ces charges-là comme des investissements, dans le sens où s'il y a le moindre pépin, eh bien derrière, on a quand même une espèce de grosse assurance qui rassure pas mal. Un troisième point, après le côté obligatoire et le côté le but, hein, c'est surtout que c'est assez complexe. En fait, ça dépend de votre statut, ça dépend des règles de votre statut juridique, et ça dépend, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, qui font que c'est assez difficile de vous dire combien vous allez payer par mois, et ça dépend effectivement aussi du revenu que vous versez. Donc, le but, pour être clair sur ça, c'est que même si c'est pas vraiment super sexy, il faut éviter toute mauvaise surprise. Et moi, j'en ai eu des mauvaises surprises. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous versez un salaire, eh bien, vous devez absolument provisionner un certain pourcentage de ce salaire-là. Pour que l'année d'après, à l'année N plus 1, quand l'URSSAF va venir vous voir, monsieur Moscardini, monsieur Dupont, l'année dernière, vous êtes versé 20 000 euros de salaire, et bien maintenant, vous devez payer en cotisation sociale tant. Le problème, c'est que si vous n'avez pas provisionné en année N moins 1, pour l'année N plus 1, enfin l'année 0 pour l'année N plus 1, et bien vous allez être très, très, très embêté. Vous vous versez un salaire de 1 000 euros, super. Et bien, chaque fois que vous versez un salaire de 1 000 euros, vous faites un calcul tout simple, vous prenez le pourcentage, je vous dirai après à peu près quel pourcentage, c'est vraiment très à la louche, hein. Vous prenez le pourcentage de ce salaire et la somme que vous avez, eh bien vous la versez sur un sous-compte de votre compte en banque professionnelle tout simplement. Moi par exemple, pour mon EURL, je sais que je provisionne pour chaque salaire versé 45% de ce salaire-là. Donc si je veux faire un salaire de 1000 euros, eh bien je vais provisionner 450 euros sur un compte à côté. Et ça peut vous paraître vraiment bête de ma part, mais quand on vient, comme moi à l'époque de l'éducation nationale en tant qu'instit, eh bien en fait on ne sait pas tout ça. Et donc je vais verser un salaire et puis ben, un jour l'URSSAF vient vous voir et toque à la porte et vous demande une grosse somme qui correspond à ce que vous deviez en fonction de votre, enfin de ce que je m'étais versé comme salaire l'année d'avant. Et donc c'est très stressant parce que du coup on n'a pas forcément la trésorerie, il va falloir sortir de l'argent qui n'était pas prévu, on n'avait pas anticipé, il faut passer un petit peu ton téléphone avec des gens qui sont administratifs, donc ils ne sont pas forcément très compréhensifs, et puis il faut mettre des plans en compte, des plans d'épurement quoi, donc c'est pas très agréable, on se sent pas très très bien. Donc pour vous éviter ça, je vous le redis, pardon, je vous répète et je répète souvent les choses, mais peut-être mon passé d'instit, mais sérieusement, vraiment ayez ce réflexe-là de provisionner un certain pourcentage de votre salaire sur un compte à côté. Quel pourcentage? Ça dépend de votre statut. Moi, EURL, SARL, c'est à peu près 45%. Vous, si vous êtes en micro-entreprise, ce sera beaucoup moins, 20-25%. Pour ça, demandez vraiment, demandez. Là, pour le coup, ils peuvent vous aider, hein, demandez à l'administration combien vous allez pouvoir provisionner pour ne pas avoir de mauvaises surprises l'année d'après. Et en faisant ça, et j'aurais terminé sur les charges, en faisant ça, ce qui est vraiment génial, c'est que on n'est plus sur le côté mince, l'URSSAF, pardon pour le mot, mais ça fait chier, ils me prennent trop d'argent, parce que du coup c'est pas prévu, je l'ai provisionné, allez-y, servez-vous. Et en plus, presque ça fait plaisir parce que je sais pourquoi vous le faites, je sais pourquoi je fais ça. Et donc ça change vraiment tout à fait le paradigme, mais ça change ce rapport à l'argent qu'on peut avoir de manière parfois assez, assez dure dans l'adversité. Là, ça change le côté de ce rapport à l'argent. On va aller sur quelque chose de plus fluide, tout simplement. Allez, troisième poste, les charges de fonctionnement, les fameuses. Ici, il s'agit des dépenses qui sont nécessaires au bon fonctionnement, à la bonne marge de votre activité. Attention, ces dépenses-là ne sont pas pour faire du profit. C'est pas avec elles, c'est pas grâce à elles que votre entreprise va grandir. Mais par contre, c'est là où c'est tout le paradoxe, c'est que sans elles, eh ben pas de boîte, pas de fonctionnement. Ce sont pas elles qui vont vous faire gagner de l'argent. Sans elles, par contre, vous ne pourrez pas gagner de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut tout simplement payer pour les charges de fonctionnement qui sont réellement utiles à votre fonctionnement d'entreprise, qui la font réellement marcher, qui sont vitales pour elle. Donc il faut faire la chasse à ces dépenses, à ces charges-là, pour ne pas s'engraisser. Parce que si on s'engraisse, si, allez, on va prendre tel ou tel service, on va se payer telle ou telle chose, tel ou tel abonnement, parce que c'est vrai qu'on en a besoin sur le moment, mais peut-être que 6 mois après, c'est plus aussi pertinent. Sauf que, on laisse courir, on laisse ces fameux prélèvements se faire, et puis au bout d'un moment, il y a pas mal de choses qui s'accumulent, et ça peut être assez périlleux pour la rentabilité de l'entreprise. Donc, vous devez faire attention à ça, mais vous devez aussi avoir conscience que il faut quand même payer des services, parce que sans service, en gros, on est moins efficace, moins productif. Donc, il faut aussi accepter de payer des charges de fonctionnement. Il peut y avoir quoi? Forcément Internet, le téléphone. Ça dépend aussi de votre activité, mais les voitures, les déplacements, peut-être des hôtels, des restaurants, l'assurance en font partie, les mutuelles. Tiens, petite parenthèse, selon votre statut, mais avec une EURL, par exemple, on peut parfaitement, c'est ce que je fais, payer la mutuelle familiale avec l'entreprise, qui peut être assez intéressant en termes de coûts. Des remboursements de prêts également, tous les services, abonnements, en photographie, on en a pas mal, je pense à Lightroom, par exemple, mais aussi des sites internet qui permettent de envoyer les photographies à ses clients, bref, tout un tas de services comme ça. Un conseil, c'est d'essayer de voir le plus clair possible toutes vos dépenses. Même si vous commencez, même si vous n'avez encore rien dépensé, même si c'est pour vous à l'état de projet certes assez avancé, que vous allez bientôt commencer, même si vous n'avez pas encore des vraies dépenses, anticipez-le, listez-les. Voilà, c'est très important de utiliser un bon vieux tableur Excel. Allez pas repayer un service de facturation, on verra ça plus tard. Pour l'instant, un bon vieux tableur Excel, à la papa, là, hein, tac, sortie, et toutes vos sorties d'argent liées aux dépenses prévisionnelles, eh bien, vous les mettez. Et l'avantage de tout noter, c'est que vous allez savoir exactement ce que vous payez tous les mois, et je vous assure que parfois, il peut y avoir des mauvaises surprises, parce que, en fait, un abonnement de 30 euros par-ci, 20 euros de frais de port par-là, 10 euros d'hébergement web, c'est pas grand-chose, pris chacun individuellement, sauf qu'à la fin, on atteint plusieurs centaines d'euros sans forcément s'en rendre compte. Donc, il en va de la rentabilité de votre entreprise photo, vraiment. Donc prenez, allez, 10 minutes, pas la peine de plus, hein, et faites le récap de tout ce que vous allez payer si ce n'est pas encore fait, ou ce que vous payez déjà si vous avez déjà votre entreprise. Et puis quand c'est fait, vous passez à l'étape suivante, qui est simplement d'enlever, de dégraisser, de réduire si c'est possible. Réduire une formule d'abonnement, parce qu'on l'avait prise à 40 euros pour avoir un truc premium, finalement on se rend compte que ce n'est pas nécessaire, on passe à 20 euros. Voilà, donc je le fais régulièrement, à peu près tous les mois, tous les deux mois, je regarde ce dont j'ai encore réellement besoin, parce que les besoins d'un moment ne sont pas ceux du futur finalement, évidemment, donc il faut faire le point régulièrement là-dessus. Allez, quatrième poste, quatrième clé pour la gestion de votre entreprise, les investissements. J'adore ce mot-là, c'est mon mot préféré dans l'entrepreneuriat. Un investissement, c'est quelque part un capital. C'est même pas quelque part, c'est un capital que l'on place pour obtenir des profits plus tard. J'ai presque envie de dire, c'est presque l'inverse finalement du fonctionnement, hein, des charges de fonctionnement qui, elles, sont pour l'immédiateté. Donc, on accepte finalement de se priver d'un bénéfice immédiat, c'est-à-dire que je vais investir pour plus tard parce que j'estime que cet investissement-là va porter des fruits, ses fruits, plus tard, dans quelques semaines, quelques mois, quelques années peut-être. Donc évidemment, derrière ça se cache la notion de risque, mais c'est ce qui nous plaît, c'est ce qui plaît dans l'entrepreneuriat, c'est le fait de, pour créer quelque chose qui n'existe pas, parce que c'est nous qui le faisons, forcément qu'il y a du risque derrière. On n'est pas assuré du résultat positif. Et on me demande souvent, mes élèves demandent souvent, est-ce que ça va marcher? Est-ce que si je fais ça, ça va marcher? La seule façon de le savoir, c'est de le tenter, c'est de le tester, c'est de risquer ça. Évidemment qu'on va, on va avoir des risques mesurés, parce qu'on va réduire justement la part d'incertitude en allant chercher les bons clients, par exemple, en ayant la bonne méthode de communication, en investissant le bon montant. Donc ça, on va limiter les risques. Non pas en prendre, mais les limiter, parce qu'on est des gens sensés, réfléchis, intelligents, mais qu'il y a une part aussi d'intuition, un petit peu de folie, parce que c'est ce qu'il faut pour investir, justement. Je vais vous prendre un exemple, allez, classique. Vous voulez investir dans un appareil photo. Pourquoi ? Parce que avec un nouvel appareil photo, vous allez pouvoir, peut-être, c'est selon votre activité, vous faire gagner des contrats de shooting en plus. Ça peut être un investissement, un appareil photo au look plus pro et au rendu plus pro, avec fiabilité plus importante, avec, je sais pas, une productivité meilleure. C'est quelque chose qui va pouvoir vous faire gagner du temps, qui va pouvoir avoir des rendus plus conformes à ce que vous voulez vous avoir comme rendu en tant que photographe, par exemple. Bref, tout ça se réfléchit évidemment, c'est un exemple que je vous donne comme ça à la volée, mais grâce à l'achat, à l'investissement de cet appareil photo qui coûte 2000, 3000, 5000, j'en sais rien, évidemment que c'est pas dans les jours qui suivent que vous allez pouvoir récupérer ces 2000, 3000, 5000. Non, c'est plus tard, parce que vous allez au fur et à mesure gagner plus de contrats, parce que, entre autres, ce sera probablement pas la seule chose, mais parce que vous avez aussi un nouvel appareil photo. En revanche, les cartes mémoire, le chargeur par exemple, sont plutôt considérés comme des frais de fonctionnement, ou l'électricité qui va vous servir à alimenter et à recharger votre appareil photo. Quel type d'investissement ? Il y a des investissements, la publicité par exemple, pour se faire connaître, hein, Facebook, YouTube, Google, on va peut-être aussi pouvoir payer un influenceur pour qu'il parle de vous sur ses réseaux, donc ça aussi, ça fait partie de l'investissement de type communication, ce qu'on appelle l'acquisition de prospects, de potentiels futurs clients. Il y a aussi l'achat de matériel, je vous en ai parlé à l'instant, mais un ordinateur qui traite photographie plus vite, un NAS ou en tout cas un serveur individuel qui vous permet de sécuriser votre travail. Alors oui, ça peut être un investissement qui vous fait gagner en tout cas une espèce d'assurance, hein, qui peut être considéré comme ça. Et puis la formation sur soi également, c'est l'investissement. On va se former sur sa pratique photo pour être meilleur photographe, se former sur sa gestion d'entreprise, on va se faire coacher pour limiter des croyances limitantes, pour pouvoir avancer plus, pour pouvoir être aidé quand on veut dépasser certains cas de son entreprise, parce qu'il en faut de l'aide. On peut pas, je connais aucun entrepreneur qui arrive tout seul. Donc tout ça, ça fait partie de ce grand ensemble d'investissements. Un conseil pour en terminer avec cette quatrième clé, vous ne pouvez pas investir dans tout à la fois et tout en même temps, c'est pas possible. Bah déjà, financièrement, il faut avoir la trésorerie, évidemment, et puis il faut aussi avoir le temps de s'organiser, de se former pour un nouveau matos, de suivre une nouvelle formation, parce que voilà, si on achète tel ou tel matériel, il faut se former pour l'utiliser, ça prend du temps, on régresse quelque part un tout petit peu avant de s'améliorer. Donc l'idée derrière ça, c'est de prioriser. Donc la question que vous posez peut-être maintenant, c'est comment prioriser ? Eh bien, en fait, la réponse à cette question, c'est vous qui l'avez. C'est selon votre stade d'avancement, selon ce que vous avez besoin sur le moment, selon ce que vous estimez être juste et opportun pour faire grandir votre entreprise, et pas grossir, mais je préfère utiliser le mot grandir. Au tout début, notre entreprise, eh bien, probablement que la clé, c'est de trouver vite des clients pour faire vos premières prestations, pour générer vos premiers chiffres d'affaires, faire vos premiers contrats. Donc là, peut-être, ce serait de faire de la publicité ou alors de vous payer les services de quelqu'un qui va vous aider en communication pour améliorer votre communication sur Instagram, par exemple. Stade suivant, votre affaire tourne, vous êtes en phase de décollage, on va l'appeler comme ça, il y a l'argent rentre, vous avez un chiffre d'affaires qui s'est installé, mais commence à se poser la question de la structure, c'est-à-dire que voilà, les clients sont là et vous commencez un petit peu à courir après le temps. Vous sentez que c'est plus difficile à assurer les services, que vous épuisez un peu plus à la tâche. Donc il y a comment des signaux plus ou moins faibles ou plus ou moins forts qui vous montrent que votre structure fondamentale de l'entreprise, elle est peut-être un petit peu fragile. Donc là, vous allez pouvoir investir dans des conseils stratégiques, des coachings d'entrepreneurs plus avancés que vous qui vont pouvoir vous aider à structurer votre entreprise. Allez, la délégation pour la cinquième et avant-dernière clé et poste pour la gestion financière de votre entreprise. Ça, c'est un truc auquel on ne pense pas quand on commence, ou même quand on est un petit peu avancé, pas parce qu'on se dit que tout de suite on pense au mot salaire, avoir des employés par exemple, et c'est la dernière chose qu'on veut en tant qu'entrepreneur, parce que si on commence à avoir des employés, on s'imagine tout de suite être chef d'entreprise, manager, et plus dans son métier, dans son activité, dans sa passion qui est celle de la photographie. Donc on n'a pas envie de ça, on a peur de ça. Et on peut ne pas avoir envie de ça parce que ça nous plaît pas, et c'est tout à fait ok. Simplement, la délégation, avoir une équipe, ça n'est pas avoir des employés et avoir un bureau. On est au 21e siècle, on est sur Internet, et maintenant, la délégation, avoir une équipe, c'est quelque chose qui peut être tout à fait externalisé et complètement digitalisé. Et c'est exactement ce que je fais. On a des outils aujourd'hui formidables pour pouvoir externaliser certaines tâches que soit on ne veut plus faire, soit on ne peut pas faire. On ne veut plus faire parce que ça nous plaît moins, parce qu'on y passe trop de temps et de l'énergie, que du coup on est moins dans notre passion originelle, ou alors on ne sait pas faire, et comme on ne sait pas faire, du coup on n'est pas efficace, donc on va l'externaliser. Et il y a plein de choses à externaliser, sans avoir d'employé. On dit qu'on va simplement payer à la tâche, qui va être plus ou moins régulière, mais en tout cas payer à la tâche des freelances, et il y en a pléthore de freelance dans n'importe quel type de thématique possible. Un exemple, vous voulez faire votre logo, eh bien, vous allez pouvoir vous payer les services d'un freelance, d'un designer qui va vous faire votre logo, ça va vous coûter peut-être 500 €, et vous aurez votre logo. Et ça, c'est externalisé. Et puis, si ça vous plaît, si le travail était bon, s'il y a une bonne relation, vous allez pouvoir le garder, peut-être pour améliorer votre charte graphique, peut-être pour vous donner des conseils réguliers, une espèce d'embauche coaching récurrent que vous allez payer évidemment, mais cette personne-là fera partie de votre équipe. Si vous voulez faire de la pub Facebook, parce que ça fonctionne bien, ou la pub YouTube, voilà, ou Google, pourquoi pas, ça n'est pas votre métier, évidemment, et c'est quelque chose qui est très technique. Il y a des gens dont c'est justement le job, et qui savent faire ça, et qui aiment faire ça. Non, vous allez payer à la tâche, ou au temps passé, une personne pour gérer vos pubs. Et cette personne-là, parce que vous ferez de la pub de manière récurrente, fera partie de votre équipe. Et vous pouvez juste la payer 100 € par mois, selon le temps passé. Et voilà, ça fait partie des choses déjà à anticiper. Et donc, juste avant, par rapport à l'investissement, je parlais de structure, la délégation est, quelque part, une forme d'investissement dans cette sous-partie d'investissement qui serait celle de la structure, de l'amélioration de votre structure. Donc, voilà, pensez-y déjà. Et si vous avez, je sais pas, déjà demandé à quelqu'un de vous aider pour faire votre site internet, typiquement, eh bien, vous avez 100 peut-être le savoir, fait la délégation. Et alors, je sais qu'en termes comptables, quand on va payer quelqu'un, moi je paye voilà, une personne tous les mois pour faire mes pubs Facebook. Je paye quelqu'un pour m'aider à animer mon groupe d'entrepreneurs, mon groupe d'élèves, parce qu'à deux, bah, c'est plus efficace, ça fonctionne mieux, il crée plein d'outils, de nouveaux outils, des tutoriels, des guides pratiques, des fiches pratiques, des vidéos pour animer l'aspect pédagogique de ma formation. Eh bien, cette personne-là, je la paye évidemment. Donc, en termes comptables, on est dans les charges de fonctionnement, évidemment. Mais pour moi, je suis dans ma fonctionnement à moi, dans mon code couleur que j'ai sur mon fichier Excel. Là, par contre, j'ai mis ça dans la délégation, dans l'équipe, dans ma gestion d'équipe. Dernière partie, sixième clé, celle-ci, elle est excessivement importante. Ça s'appelle, j'appelle ça les dons. Okay ? Et au niveau en termes comptables, c'est quelque chose qui serait à part. Idéalement, vous devriez, toute entreprise finalement, devrait verser au moins 1% de son chiffre d'affaires à des associations. D'ailleurs, vous savez qu'il y a une association, enfin, il y a un organisme qui s'appelle 1% for the Planet, et ça peut, c'est accessible à n'importe quelle entreprise. Et n'importe quelle entreprise qui va verser 1% de son CA, de son chiffre d'affaires, à une entreprise, à une association sauvegarde de la nature, sauvegarde de l'être humain, peu importe ce que c'est, va pouvoir apposer ce logo 1% for the planet. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que si vous faites ce job-là, si vous avez cette ambition d'être photographe, entrepreneur et de gagner votre vie grâce à votre passion pour la photographie, c'est déjà pour assouvir une première, une première volonté personnel, égoïste, et c'est très bien de l'être, qui est celle de d'avoir votre vie rêvée. Pour vous, ça c'est génial. Et aussi pour votre famille. Deuxième argument, c'est celui de servir des clients, d'aider des gens dans la photographie. Voilà, il y a plein de façons différentes d'aider les gens grâce à la photographie. Donc vous allez vous faire payer pour ce service-là. Et puis il y a une troisième chose qu'on oublie toujours, il ne faut pas l'oublier, c'est celle de, grâce à votre entreprise, de payer, de financer des causes qui vous tiennent à cœur. Le faire, ça donne encore plus de sens à votre job, à ce que vous faites, et puis même à votre vie. Moi, pendant très longtemps, j'ai voulu être, photographe animalier qui, par ses belles photos, va pouvoir sensibiliser les gens à la nature et la sauvegarde de la nature. Sauf que faire des très belles photos qui me permettent d'en vivre, donc de les vendre, de faire des bouquins, de vendre des bouquins, ça impliquait beaucoup de sacrifices en termes de temps passé et aussi en termes d'aller sur des spots photos assez particuliers probablement pour pouvoir faire sortir des photographies incroyables et donc de sortir du lot et de vivre de ça. J'avais pas le temps et je me sentais surtout pas les capacités de sacrifice en termes de famille parce qu'il fallait passer beaucoup de temps dans la nature et donc moi j'ai voulu être entrepreneur pour aussi retrouver du temps pour ma famille et particulièrement mes filles et donc si c'était être entrepreneur pour finalement repartir et ne jamais être là le soir ou tôt le matin parce qu'il faut être dehors pour faire des photographies et que c'était à ces moments-là que ma famille et mes filles avaient besoin de moi, c'était pas possible et pas compatible avec mon rythme de vie. Donc, je ne l'ai pas fait. En revanche, j'ai toujours cette envie et ce besoin d'aider la nature, on va dire ça comme ça. Eh bien, le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est d'aider la nature, non pas par des actions, concrètes, directes en tout cas, mais par des dons que je fais à des associations qui vont œuvrer pour la protection et la sauvegarde de la nature. Et ça me va très bien. Et en fait, moi, je verse pas 1%, je verse 3% de mon chiffre d'affaires à des associations et je suis très heureux de ça. Et c'est programmé. Tous les mois, je verse tant de centaines d'euros à des associations et je trouve ça, je suis très, très content de ça. Et ça donne encore plus de sens à mon entreprise. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. J'espère sincèrement que ça vous aura aidé, que ces 6 clés vont vous donner de la clarté, c'est le but. Et surtout, je vous le répète, prenez-les ces 6-là et faites-les à votre sauce. Vous pouvez peut-être au début le prendre pour argent comptant, faire vous aussi ces 6 choses-là, faire votre tableau, faire vos petites popotes avec ces 6 choses-là. Et puis derrière, vous allez remodeler parce que finalement, votre fonctionnement à vous, votre expérience fera que vous aurez besoin d'aménager votre propre organisation de votre gestion financière. Je vous souhaite à toutes et à tous déjà de faire de belles photos et puis de prendre le temps de faire ce travail-là sur votre gestion financière. À très bientôt pour le prochain épisode. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser une bonne note sur Apple Podcast et un commentaire. Merci infiniment. Ciao, ciao.